Ce que nous savons, ou ce que nous avons comme accès en quelque sorte à Hachem, c'est la notion de kavod. Kadosh, 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 Hachem Tzvakot. À ce niveau-là, quand on parle de Kdusha, on n'y comprend rien, on n'a rien à dire. Mais Melo Kol Haaretz Kvodo, là, Baaretz, sur la terre, a priori, dans le monde, il se dévoile. C'est-à-dire que le kavod, c'est le dévoilement de quelque chose dont nous n'avons absolument aucune idée. Sur la chose elle-même, on n'a aucune idée, mais quand elle décide de se dévoiler, alors sur cette chose dévoilée, on a un certain accès. Donc, on peut dire en une phrase que le dévoilement de la Kedusha, c'est le Kavod. Et là-dessus, nous, nous disons, c'est Bra'anu Lichvodo. Nous avons été créés pour le kavod d'Hachem. Donc on dit She'akol bara lichvodo. Toute la création, tout ce qui a été créé, il ne l'a été que pour le kavod d'Hachem. Kolani krabishmi lichvodi, brativ, yetsamtiv, afasitiv. Je l'ai créé, je l'ai formé, je l'ai fait. Comment est-ce que nous pouvons nous approcher du Boréolam? Eh bien, il faut utiliser la voie de le Chabed en donnant du kavod. La Torah nous révèle en quelque sorte comment. Quels sont les différents aspects du kavod? Il faut d'abord, ça veut dire, puisque la Torah nous dévoile quels sont les aspects du kavod, ça veut dire que nous devons commencer par oublier tout ce que nous croyons savoir sur la notion de kavod. N'avons pas. Nous ne pouvons pas utiliser les idées que nous avons sur le kavod dans la notion de kavod par rapport au boréolam. Il faut faire abstraction de ce que nous savons déjà sur la notion de kavod. Que nous croyons savoir, en quelque sorte. La notion de kavod que nous avons n'est pas adéquate pour traiter le problème du kavod d'Hachem. Il faut écouter ce que la Torah a à nous dire au sujet de la notion de kavod d'Hachem. C'est ça le travail, en quelque sorte. Cette paracha-là, elle va nous montrer. Quel est le kavod? Comment est-ce que on est mechabed? Hachem. L'être humain, il a une sensibilité à la notion de kavod. L'être humain veut du kavod. Il veut recevoir du kavod. Certains, par exemple, veulent être, à la synagogue, ils veulent être Shaliar Tzibour, ou bien lire le Maftir, ou recevoir la troisième Aliyah, ou la sixième, etc. Ou bien ils veulent être assis au Mizrach, ou devant. De ce point de vue-là, on n'arrive pas vraiment à décrire la notion de kavod à droite. Il n'y en a pas, moi plus. Par exemple, quand on parle de tava, du désir, de l'envie, alors on sait définir. L'homme, ils aiment, il y a ceux qui aiment la glace, et il y a ceux. Là, on comprend, on sait de quoi on parle. C'est quelque chose qui est agréable, qui est doux, qui est frère, enfin bref. Et donc, il n'y a presque pas de définition de cette notion de kavod. Mais qu'est-ce que le kavod donne à l'homme? Qu'est-ce que ça lui donne d'être assis tout devant, d'être le centre des regards, etc.? Pourquoi quelqu'un va s'habiller de telle sorte qu'on la remarque? D'accord? Pourquoi on veut être la plus belle, la plus truc, la plus machin? Difficile à définir exactement de quoi est-ce qu'on parle ici. Mais c'est quelque chose qui existe dans l'homme. Pour le définir, c'est difficile. Mais tout le monde comprend bien que ça existe. Il y a un certain minimum de kavod qui doit y avoir chez l'homme. L'Agmara, elle dit par exemple, elle dit que quelqu'un qui mange bachouk, dans le marché ou dans la grande rue, quoi. Il n'est pas saoul les doutes. Cette personne-là, on n'accepte pas son témoignage. C'est-à-dire, si on veut le prendre comme témoin à un mariage, il n'est pas bon comme témoin. Pourquoi? Parce qu'on considère que il ne se respecte pas suffisamment. Il ne se donne pas à lui-même suffisamment de kavod. Par conséquent, il n'en donnera pas non plus aux autres. Et donc, ça ne le dérangera pas complètement de faire un faux témoignage. Il y a une certaine idée que manger. On mange à la maison, on mange pas dans la rue. C'est quelque chose de très fin. Aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, ça n'existe plus. Aujourd'hui, les gens mangent leurs sandwichs partout. Les gens se promènent avec des gobelets de café ou d'autres dans la rue. Complètement répandu par tout le monde. Les glaces sont mangées depuis longtemps, ça se mangeait dans la rue. Dans tous les sujets de kavod, c'est toujours très difficile de pouvoir définir c'est quoi le problème exactement. Dans les vêtements que nous portons, fais attention à certains vêtements. C'est le kavod, c'est pas le kavod de mettre. Donc, tu peux pas aller à une réception en salopette. Sauf si, évidemment, c'est une salopette Dior, tu peux aller, mais une salopette ordinaire, tu peux pas aller à une réception. Et dans la Gemara, on utilise l'expression ma'aneh mechoubdata, que les vêtements, c'est une façon de se donner du kavod. À savoir, l'habit ne fait pas toujours le moine, mais il donne un certain kavod à celui qui le porte. La Gemara, elle est très sévère, par exemple, un Talmid Chacham qui a une tache sur son vêtement, la Gemara dit le chayav mita. Chez le Rav Volbé, au-dessus de la penderie où il y avait une brosse à habits. Pardon?
C'est une génération de faire avec ça.
Ah ouais, bon,
Parce qu'il fallait sortir un peu de cas. Mais par contre, le vêtement, c'est bien quelque chose de culturel. Hein. Est-ce que ton
oui,
aspect
mais dans cette culture-là, vous avez raison, il y a une connotation culturelle, mais dans cette culture-là, si tu t'habilles pas comme on doit s'habiller selon cette culture-là, tu manques de kavod. Dans l'histoire, par rapport au kavod, il y a des choses sur lesquelles on doit faire attention. Aujourd'hui, certains utilise une expression pour parler de cela. En hébreu, ça s'appelle Aracha Atzmit. C'est une certaine dignité. Sans cela, l'homme n'est pas un homme. L'être humain n'est pas un être humain. Le Alter de Slobodka, qui était un grand maître du Moussard,
dans les textes qui ne semblent pas
un instant. Il disait que si on lui enlève, on enlève à le... Si on imaginait qu'on enlève à l'homme tout son kavod, il lui reste rien de kavod, il mourrait. L'être humain ne peut pas survivre s'il n'y a pas un minimum de kavod. La notion de kavod, elle est tellement ancrée dans l'être humain. C'est dans la neshama en réalité. La neshama, c'est une réalité de kavod. C'est pour ça que dans le Tanakh, la neshama est appelée kavod. C'est marqué dans le passouk, Leman Izamercha Kavod Veloïdom. Ici, on parle d'un neshama. Parce que la neshama, c'est cette réalité du kavod.
L'entrepreneur, il y a quelque chose qu'on attend des autres. C'est la noblesse, voilà. La noblesse, c'est quelque chose d'intérieur.
Bon, tu peux décider que traduire.
Ne peux pas dire qu'il avait de l'honneur,
Qui?
mais on peut dire qu'il avait de la noblesse. Les Juifs dans le camp de concentration. On leur rend. Je veux dire qu'il avait une
Mais
carte.
ce qu'on a voulu, ce que les nazis voulaient faire, c'est leur faire perdre toute
Oui,
notion de kavod.
et ça, ils n'ont pas réussi. Eux, ils ont gardé leur, à la maison de leur tête. Par exemple, par noblesse, par honneur.
Non, mais c'est pas
C'est
honneur au sens, c'est pas au sens des honneurs où on donne à quelqu'un.
un peu. Les personnes qui ont essayé de ne pas se laisser anéantir, toucher. On obéit à des rituels de toujours se baser,
Oui, oui,
de
oui, oui.
toujours laver.
Dans un camp qui n'était pas un camp de concentration, mais un camp de travail, le Rav Chaïkine, le Rosh Yeshiva de Aix-les-Bains, qu'est-ce qu'il faisait le Shabbat? Il portait sa vareuse à l'envers. Il n'y avait rien d'autre à faire, mais c'est ça.
Être avoir à l'intérieur de soi. C'est faire valoir qu'on a à l'intérieur de soi une
Oui,
forme
ben c'est de ça qu'on parle. Et ça, c'est la neshama. Oui, non, mais je ne pense pas que.
bien. C'est parasité le mot de la parole. Non, c'est un mot
Si quelqu'un cherche un kavod extérieur, alors il y aura un kavod matériel. Mais à l'intérieur de lui-même, en fait, la notion même de kavod, c'est quelque chose qui vient, qui est de l'ordre du spirituel, et pas du matériel. Lorsqu'il y a spiritualité, là-bas, il doit y avoir du kavod. S'il n'y a pas de kdusha, alors il n'y aura pas de kavod. Les gens disent que il y a que les rabbins qui recherchent du kavod. Les gens, ils pensent qu'eux-mêmes, ils ne recherchent pas le kavod. En vérité, ce n'est pas vrai. Tout le monde recherche du kavod. Et les gens veulent apparaître à la télévision, ils veulent qu'on parle d'eux dans les journaux d'une certaine manière. Quand on grandit dans la Torah, on veut aussi plus de kavod. Avant qu'on se mette vraiment à l'étude de la Torah, le jeune qui est avant de s'investir vraiment, il est entièrement dans le monde de la tava, du désir, des envies, etc. Quand il commence à étudier, alors a priori, la tava, le désir est un peu freiné par la Torah, mais le kavod, c'est une forme de désir spirituel. C'est la tahava qui prend un autre visage. Et donc, quand la tahava matérielle s'éloigne grâce à l'étude de la Torah, il vient une tahava spirituelle qui s'appelle kavod. Le kavod, sa source, c'est dans la spiritualité. L'argasha, le sentiment de kavod, vient de la neshama. C'est pour ça que là où il y a de la kdusha, il doit y avoir du kavod. Puisque le kavod, comme on a vu, c'est le giloui de la kdusha. C'est le dévoilement de la kdusha. Donc, il doit y avoir, là où il y a de la kdusha, il doit y avoir du kavod. Et si on fait attention au kavod, alors la kdusha va pouvoir rester là. Donc, la Torah, elle vient ici dans Parshat Emor. Elle nous donne des dinim de kavod à l'égard des Kohanim, à l'égard du Mizbéach, à l'égard des Moadim, du Yom Tov, du Shabbat, parce que c'est ça qui va permettre garder la Kedusha, de préserver la Kedusha. De même, par exemple, on doit donner du kavod à la nourriture. Bien que la nourriture ne soit pas sensible au kavod qu'on lui donne. Parce que il y a là une obligation qui est faite à l'homme de donner du kavod. L'homme doit valoriser. C'est-à-dire, il doit prendre conscience de la valeur que représentent les choses qui l'aident ou qui sont bonnes pour lui. Et l'homme doit apprendre à se donner du kavod à lui-même. Au tselem Elohim qu'il y a en lui. Par conséquent, il doit mettre des vêtements convenables. Il doit mettre des vêtements parce que il faut qu'il exprime le fait que il est le couronnement, si on peut parler comme ça, de la création. Bien qu'on demande à l'homme d'être spirituel, quand on lui dit Kedoshim Tiyu, soyez saints, c'est-à-dire, comme on a dit, la Kedusha, c'est séparé du matériel. Et malgré tout, il doit donner du kavod, même à des choses purement matérielles. Ça n'affecte pas du tout sa spiritualité. Kadosh, ça veut dire séparé de, comme on a vu, de ce qui est matériel. Mais melo kol haaretz kvodo. Kvodo Yitbarach nimsa bechol haaretz. Le kavod d'Hachem, il est partout. Y compris dans le gashmiut, y compris dans la matérialité. Par exemple, la kdusha du Shabbat. Il y a des dinim dans le Shabbat qui sont l'expression du kavod qu'on donne au Shabbat. Bien que le Shabbat soit quelque chose de totalement spirituel, néanmoins, on va donner du kavod au Shabbat avec des choses purement matérielles. Les vêtements, la nourriture, etc., la parole. Donc l'idée, c'est que grâce à des actions purement matérielles, de kavod, nous arrivons à exprimer en fait la valeur, l'importance que l'homme donne à ces choses-là, à ces choses, à ce sujet tout à fait spirituel. Alors, par exemple, Vayomer Hashem el Moshe, Emor al Kohanim, Bnei Aaron, Veamarta alehem, Nefesh lo yitama bermav. Les Kohanim n'ont pas le droit de se rendre impurs en s'occupant des morts. On vient de dire que quand il y a de la Kdusha, il y a du Kavod. Le Kohen, il a une kedusha, il est séparé, bon, il a des conditions de vie séparées des conditions de vie de Monsieur Tout-le-Monde. Il a plein de restrictions dans la façon dont il doit vivre. Et dans les dynimes de Kavod, il y a de ne pas se rendre impur par contact avec un mort. Il y a des interdits de mariage. Un Cohen ne peut pas épouser une femme divorcée, par exemple. Il y a l'obligation de lui donner du kavod, de l'appeler premier à la Torah. La chose la plus dégradante, si on peut parler comme ça, dans le monde, c'est le corps mort. La Torah, elle n'est pas d'accord, en quelque sorte, avec le fait que l'homme soit mortel, qu'il meure. C'est la chose la plus dégradante qu'il y ait dans l'homme de savoir qu'il est mortel. Normalement, on n'aurait pas le droit de mourir. Comment se fait-il qu'un homme qui a une neshama peut mourir? Mais c'est qu'il y a une notion de chet, de faute. Et à cause de cela, c'est à cause de. Je rappelle que l'homme n'a pas été créé mortel. Il a été créé immortel. Et quand on a accepté la Torah au Sinaï, on est redevenu immortel. C'est toujours suite à une faute, la faute d'Adam ou la faute du veau d'or, que la mortalité de l'homme est revenue. Mais c'est une honte, le fait que l'homme soit mortel. La Torah, elle veut nous amener à Triat HaMetim, à corriger la mort.
Le corps
Pardon?
au corps.
Le corps est immortel. Oui. Pardon?
Fait qu'on ne peut plus dire parce que nous sommes
On peut?
pillés. Ça aurait été à faire, mais pillés. On est impurs.
On n'est pas impur. Qu'on est vivant, le vivant n'est jamais impur. Ce n'est pas vrai, en fait. Rien dans le vivant n'est jamais impur, sauf l'homme. Dans certains cas, il est impur quand il est Metsora, quand il est Zav, quand il est Nida, quand, etc., dans toutes sortes de circonstances. Mais.
Le fait qu'on soit mortel a une notion de bon délire et d'impureté.
Il dit que le fait que nous soyons mortels, c'est un scandale. Mais ce scandale, c'est nous qui l'avons provoqué en quelque sorte.
Mais est-ce que pour être mortel a quelque chose à voir avec.
On n'est pas impur parce qu'on est mortel. C'est parce qu'on est mortel et qu'on va se transformer en un corps mort, qui ce corps mort, c'est le summum de l'impureté, qui fait que c'est une honte d'avoir dans sa trajectoire la mort.
Avant la date, on n'est pas encore impur.
On n'est pas impur tant qu'on n'est pas Metsora ou Zav, etc. Mais le corps, normalement, il n'est pas impur. Sauf s'il a été en contact avec un mort ou il était dans une pièce. Où il y avait eu un mort, bon, il y a des raisons pour qu'il devienne impur, mais il n'est pas par essence, il n'est pas impur.
On est constamment en contact avec l'intégrité.
Oui, c'est vrai, mais on est en contact. Mais ce n'est pas nous. C'est parce qu'on est en contact. On peut imaginer, on imagine, la Gemara, elle imagine ça, qu'on a besoin pour fabriquer les fameuses eaux lustrales, c'est-à-dire ces eaux qu'on utilise pour purifier quelqu'un qui était en contact avec un mort, on a besoin des êtres humains pour le fabriquer. Mais si tout le monde est impur, comment on fabrique? Alors la Gemara, elle raconte comment, effectivement, des femmes pourraient mettre au monde des enfants qui ne seraient pas tméim parce qu'ils ne seraient pas sur le sol, ils seraient en hauteur, ils seraient coupés du sol, etc. On invente des enfants construits en fait, qui naissent et qui ne sont pas, ils sont pas dans une pièce dans laquelle ils deviendraient impurs, etc. Donc on envisage la fabrication, si on peut parler comme ça, la naissance et puis la fabrication d'enfants qui seraient purs. L'auteur de Slobodka disait, la Gemara, elle dit que il ne peut pas y avoir d'ouverture de la matrice, en quelque sorte, sans qu'il y ait un écoulement de sang. C'est-à-dire, quand une femme met au monde un enfant, par exemple, bien qu'on, même si on ne voyait absolument aucun sang, ça n'existe pas qui est une naissance sans aucun sang. Mais Chazal disent, à cause de cela, quand ils parlent de du Rechem, ils parlent de la matrice, ils l'appellent Kever. Et Kever, c'est une tombe. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme, il naît d'une tombe. Pourquoi? Ben, ultimement, parce qu'il va mourir. Donc, sa naissance, c'est la naissance à la mort, quelque part. Donc, c'est un kever. Raison pour laquelle le Cohen, qui doit vivre un certain niveau de Kedusha dans le clan Israël, il n'a pas le droit de se rendre impur par contact avec les morts. Ce sont des dynimes de Kavod pour préserver justement cette Kedusha. Ça, c'est que donnait le Ravolvé comme introduction à Parshat Emor, on va y revenir. Mais auparavant, je vais rapporter ce que dit Rav David Feinstein sur cette Parshat Emor. Lui, justement, il donne un titre au début de la paracha. Il dit Emor el Kohanim, Ashrechem shezachitem liyot shevet keuna. On leur dit, vous êtes heureux que vous avez mérité d'être la tribu de Keuna, la tribu de Kohanim. En effet, d'abord remarquer que cette parcha de Hémor, elle est caractérisée par le fait qu'il y a un lachon, une expression Amira, à trois reprises. Vayomer, c'est Amira, Hémor, Ve'amarta. L'introduction, c'est trois fois Amira. On sait bien que l'expression Amira par opposition à Dibour, c'est ce qu'on appelle la Chandraka, c'est une forme douce de parole. La parole est douce. Comme on l'a dit dans Parshat Yitro, où Hachem a dit à Moshe, Kotomar le Bet Yaakov, Kotomar à Bet Yaakov, au Bet Yaakov, tu leur parleras doucement. Amira. Tu dois encourager les femmes, essayer de les rendre enthousiastes de faire les mitzvot, et pas Dibour, qui a la chaîne cachée, et qui parle de dinim difficile, etc. Alors, bien sûr, il y a la Amira dans la Torah à plusieurs reprises, mais la majorité des cas, la parasha de la Torah commence par Vaïdaber, Hashem el Moshe, et pas Vayomer. Et des fois, c'est marqué Vaïdaber Hashem el Moshe, Emor el Bnei Israël. Hachem parle durement à Moshe, mais il lui dit, parle doucement au peuple d'Israël. On a même le contraire des fois. C'est Vayomer Hachem el Moshe, Daber el Bnei Israël. Il parle doucement à Moshe, il leur dit, parle durement au peuple d'Israël. Il s'agit de savoir qui est-ce qui avait plus besoin de la parole douce. Moshe Rabbeinu ou bien le Bnei Israël. Ici, On doit bien sûr se demander pourquoi toute la paracha est Belashon Amira. Pourquoi la paracha parle de Amira, Yomer, comme on a vu, est mort et Ve'amarta. Alors il propose l'explication suivante. Au début, c'est marqué Vayomer Hashem el Moshe. Alors il dit, She'aribono shel olam idlik et Moshe Rabbeinu. Il a en quelque sorte allumé Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu lui-même, il devait transmettre cette chose-là de la bonne manière. Et que pour les Kohanim, ils reçoivent ça comme lui l'a reçu, comme une Amira. Et à ce moment-là, et tu le Ve'amarta Alehem, tu dois faire en sorte d'allumer aussi les Kohanim pour qu'ils veuillent cela. Pas simplement qu'ils le fassent parce qu'ils sont obligés, mais qu'ils le veuillent. Comme c'est marqué dans le Passouk, c'est marqué au début de, enfin plus au début de Sefer Vayikra, Kach et Aaron. Littéralement, c'est marqué prends Aaron. Rashi explique, qu'est-ce que ça veut dire, il faut le prendre, il ne peut pas le prendre sous le bras, non? Prends, ça veut dire quoi? Rashi explique, Kachenu bedvarim ou moshreu. Prends-le avec des paroles et attire-le. Et dis-lui, Ashrecha shezachita le keuna. Dis-lui, pas très heureux d'avoir mérité la keuna. Bien entendu, mon cher Rabbeinu pouvait parler à son frère. De vraiment tout à fait sincèrement, puisque Moshe Rabbeinu pensait vraiment que la Kehuna était quelque chose de très important. Donc, quand il lui dit c'est toi qui es devenu Cohen, bon, il peut lui dire sincèrement ben c'est réjouis-toi. Mais le Ribbono Shel Olam il a dit à Moshe Rabbeinu, et il lui a dit sous Vayomer qu'il sache que Issourei Keuna, toute cette paracha qui énumère toutes sortes d'interdits aux Kohanim, c'est une amira, c'est-à-dire quelque chose de bon, quelque chose de doux, c'est pas quelque chose de dur. Ça lui dit, et mort est la Kohanim. Shem sort d'avarzé la Kohanim, que mon crou, otam, fakar otam, pardon, bedvarim. C'est-à-dire, persuade-les avec des paroles. Donne-leur vraiment à comprendre que c'est un privilège. Mais c'est marqué une troisième fois, Amira. Ve'amarta alehem. Et ça, c'est un peu difficile. Pourquoi le dire encore une fois à Miral? Il l'a déjà dit deux fois. C'est parce que nous savons bien que dans la Torah, parfois, la Torah utilise des mots. Des mots différents, en quelque sorte. Et Bémet, tous les mots ont une source dans la Torah. Mais nous, nous le savons d'autres mots. Et ce mot-là, hein, il dérive de cette racine, d'un autre mot. Le machal, exemple. Adam Yodea Amouvan Shen Mila chutzpah. Tout le monde sait ce que veut dire chutzpah, le culot, l'impudence. Parce que c'est même un mot qui a passé presque en français ou en anglais, en tout cas dans le Yiddish, c'est entré. Et donc, tout le monde sait que le mot chutzpah en Lashana Kodesh, on sait que c'est un mot de Lashana Kodesh. Mais en vérité, c'est le contraire. Ce mot-là, il a été pris de la Lashon HaKodesh Memele, Yeshlomar, chez Apirouch, elle, Ve'amarta Alehem. Et donc, on peut entendre que quand Hachem lui a dit Ve'amarta de nouveau Alehem, c'est la shon shel Gevahot chez Amir, la shon Aravi ou la shon shel Malchut Osrara. C'est un émir. En arabe, le mot émir, c'est. Donc dans Amira, vous avez émir. Varibonu shel olam amar le Moshe, l'omar la Kohanim, she'atem ha Kohanim, inchem ha emir shel klal Israël. Dis aux Kohanim, vous êtes les princes, l'émir du klal Israël. Vous êtes les chefs du klal Israël. Apirush, shel ve'amarta lehem, c'est marqué ve'amarta Elehem. Velo va Marta Lahem. Parce qu'il a reçu l'ordre de leur parler à eux. Donc c'est comment? Emor El Akoanim. C'est Elehem donc. Chou, comment chez Katouv? Al Akoanim. Avec un Aïn. Renouve Pérouche, Shelve Amarta, Alehem. C'est où comment chez Katouf, Alehem avec un Aïn. Alehem avec un Aleph. Comme si c'était marqué avec un Aïn. Parce qu'on sait très bien que le Aleph et le Aïn s'échangent. C'est-à-dire, Tomar, Alehem, et Godel, Ichusam, Shel Keuna. Tu leur diras à leur sujet, la grandeur de la notion de Kohen. C'est d'abord Imahem, Todiem, Shem, Emir. Ils ont un statut très élevé. Ils sont des rois. Vikara Kavanahi, Shem, Bemalazu, Kvarmishat, Ledatam. Et ils ont ce privilège, ils ont ce statut de par leur naissance. Et là, Bacher, Kohanim. Bon, ils ne doivent pas choisir à tout moment d'être Kohanim, comme le fils du roi. Et Kvar ou le fils du roi, il est potentiellement roi depuis sa naissance. Il est ou non la force de l'être. Ben Melech ou Melech. Moshe Matsinou, en Russie, on savait la descendance du tsar. Même encore aujourd'hui, ils ont une certaine royauté, en fait, même si en fait la royauté n'existe plus. Mais Amarta Lehem, c'est un Yichus Mamishpacha. C'est-à-dire que dans la famille juive, vous avez un statut à part. De même que le fils du roi, le fils de l'émir, est un émir, Kenakoanim Kol, Zera keuna, yesh lahem malchut, sholech midor le dor, vehu kavod gadol bishvilam. Et automatiquement, qu'est-ce que les hommes ne font pas pour avoir du kavod? Les gens sont prêts à mettre des vêtements désagréables pour leur kavod. Ils vont porter des chaussures qui leur écrasent les pieds. Ils vont porter des cols à mi-donnée ou je sais pas qui leur coupe la gorge. Ça aurait été bien mieux de mettre une chemise normale. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre un plastron comme ça? Pour le kavod, les gens sont prêts à payer cher. Donc tout ce qu'Hachem va ordonner dans la suite de la paracha, qui apparaissent comme des décrets, comme le Nefesh lo itamé be'amav. On dit à un Kohen, tu ne pourras pas t'occuper de ton mort. Ils ont perdu un père, une mère, ils ne peuvent pas s'en occuper. Il faudra qu'ils demandent à quelqu'un d'autre de s'en occuper. C'est très désagréable, pour le moins. Aujourd'hui, un Cohen qui veut prendre l'avion, il doit d'abord se renseigner pour savoir si l'avion ne transporte pas des cadavres. Il y a un problème, même si l'avion passe au-dessus d'un cimetière ou des choses comme ça. Il y avait un moment où certains avions qui décollaient de Ben Gurion, ils passaient au-dessus d'un cimetière. Les Kohanim ne pouvaient pas prendre ces avions. Et des fois, si on est en voiture et il y a des arbres, d'accord, qui font un ohel au-dessus de la route, mais aussi au-dessus d'un cimetière, on ne peut pas prendre ces trucs. Le Rabbi Mouk, Zichron Livracha, il ne pouvait pas rentrer chez lui par la voie la plus courte parce que ça passait au-dessus d'un cimetière. Donc il était obligé de faire un détour pour rentrer chez lui parce qu'il était Cohen. Un juif, il n'a pas ce problème. Il s'en occupe pas. Il devient tamé, mais bon, ça n'a pas d'importance. Comment est-ce que les Kohanim sont censés recevoir ces lois-là comme des amira, comme une amira? Quelque chose d'agréable pour eux. Ça n'est possible que si ils ont conscience qu'en acceptant ça, ils deviennent émirs, ils deviennent des rois. C'est un prix à payer pour le kavod, en fait. Le roi, non plus, il ne va pas porter le deuil de gens qui ne sont pas archi-proches. Donc tout pour eux, à partir du moment où ils comprennent que c'est ce qui va leur donner accès au niveau auquel ils doivent normalement appartenir, un mort qui n'est pas le leur, qui n'est pas son leur proche, un Cohen, il est au-dessus de tout ça. Le roi ne va pas à cet enterrement parce que ce n'est pas son kavod. Alors, il y a un célèbre exemple ou qui n'est pas conforme à ce qu'on vient de dire, qui est que David HaMelech était en fait à l'alvaya de Avner, son chef. Mais ça, c'était pour apaiser le peuple, qu'il sache que ce n'est pas lui qui a donné l'ordre de tuer Avner. Donc il l'a fait pour des raisons politiques. Là aussi, c'est un problème, savoir, OK, le roi, pour des raisons politiques, il peut devoir le faire. Parce qu'en vérité, il y a une mala d'aller à une levaya. C'est marqué dans la Gemara, Amadir et Ishto chez l'hôtel Bet Aven, ou le Bet Amishte, Yotzi Vitek. Si un mari fait un éder qui interdit à sa femme d'aller rendre visite, une visite d'Avelout, ou bien lui interdit d'aller le Bet Amishte, c'est-à-dire un repas de mariage, l'homme qui a fait ça, en fait, il est obligé de divorcer et lui donner la ktouba. La femme, elle peut dire, si la femme veut pas, il ne se passe rien. Mais si la femme dit, moi, je ne veux pas être lié par ça, l'homme va être obligé de divorcer et il va payer la ktouba. Donc c'est un droit, c'est une mahala. Je ne peux pas priver la femme de cette mahala. D'aller soit le Bet Amishté, soit le Bet Aaval. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine itororoute quand on est à une levaya, ça peut nous aider à faire tshuva, etc. C'est marqué dans le passouk, Ve'achai iten el libo. Le vivant, il doit prendre conscience quand il est dans une telle situation et faire tshuva. D'aller à un enterrement, ça donne un peu de, ça oblige l'homme à réfléchir. À part cela, à part ça, après cela, Yesh Dibour la Kohanim. Alors cette fois-ci, c'est Vaïdaber au Kohanim, chez Lo Yakriv Korban, Mishéou Baalboum. Im Kolze, Afalpi Shéou Vaïdaber, le Sopoche Davar, ou Amira Lahem, Itzad Shem Bemalat Emir. Kolze Lama, Ipne Shézéou Amechir, Shem Meshalmim Bishvil Gadlut Uschara. והריבון של עולם אמר למשה רבינו שיאמר להם דבר שישמח אותם אפילו בעולם הזה באזהרות הנוספות של איסור כהונה. Donc ici, il faut comprendre que c'est vrai que c'est un peu dur, mais c'est même dit sous forme de dibour. Mais ça s'inscrit dans une paracha qui commence par Amira. Et que mon cher Abénou doit le leur présenter de façon à ce que ce soit perçu comme quelque chose d'agréable dans la mesure où c'est la résultante du statut royal qui est le leur. Pardon? Par exemple, oui. Mais ça, c'est la tzniout, ça, c'est quelque chose pour tout le clan d'Israël. Toute personne qui est dans une, dans un statut supérieur, en quelque sorte, il a des interdits plus que les autres gens qui sont l'expression de non, ça, c'est pas mon kavod, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas me conduire de cette manière-là, je ne peux pas manger ça. Où je ne peux pas manger comme cela, etc. C'est vrai que un président de quelque chose, un président dans un, il a sans arrêt des gens qui sont là. Il est presque comme en prison en permanence. Il est toujours sous surveillance. Il vit pas comme Monsieur Tout le Monde. Alors il pourrait dire, mais pourquoi j'ai tout ça? Pourquoi est-ce qu'on m'impose tout ça? Mais c'est ça, ça vient de son statut. Et on voit bien qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser des fortunes pour devenir président et puis ensuite se retrouver enfermés dans une forme de prison pendant un certain nombre d'années. Mais ils sont prêts à payer pour l'avoir, pour ce cavode-là. Dans la paracha à la fin de Parashat Emor, il y a cette paracha des Moadim, des fêtes. Alors, il y a quelque chose qui nous concerne, disons, en ce moment. Marqué dans le passouk, Ve'enif et à Omer, l'ifne Hachem, l'irtsontrem, mi machorat à Shabbat, yenifenu à Kohen. Le passouk, c'est le passouk 23-11. Le Kohen, il va balancer le Omer devant Hachem. Et il va le faire, mais Mahorat à Shabbat, partir du lendemain du Shabbat. Alors, comme vous savez, c'est un grand problème. Rashi dit, c'est quoi le lendemain du Shabbat? Normalement, le lendemain du Shabbat, c'est Yom Rishon, n'est-ce pas? Comme ça, d'habitude. Lendemain de Shabbat, c'est dimanche. Mais Rashi dit, Mimachorat à Shabbat, Mimachorat Yom Tov Arishon Shel Pesach. Sheim ata omer Shabbat Bereshit, Yata Yodea Ezehu. Donc, premièrement, Rashi dit que Shabbat ici, ça ne veut pas dire Shabbat, septième jour de la semaine. Mais ça veut dire premier jour de Pessah. Donc, comme vous savez, le lendemain du premier jour de Pessah, c'est le deuxième jour de Pessah. D'accord? Donc, le deuxième jour de Pessah, il y a ce rituel du Corban qui s'appelle Corban Omer. Alors, comme on sait, Les Tzedoukim, Eux, ils disaient que Mimachorat à Shabbat, c'est-à-dire le dimanche qui suit le premier Shabbat après Pessah. Après la fête de après Pessah, le premier Shabbat, le lendemain de ce premier Shabbat, on fait le Homer, et pour eux commence, qui va être la Sfira, le décompte du Homer. Allô? Le premier Shabbat. Parce que Rachid a dit, un des problèmes, si tu voulais lire dans ce verset qu'on parle du Shabbat au sens du septième jour de la semaine, ben on ne sait pas lequel. C'est marqué Mimachorat à Shabbat. Alors peut-être c'est le lendemain de Shabbat à Zinou, je ne sais pas. Bon. On ne sait pas. Alors les Tzadikim, ils disent, non, mais nous on sait. C'est le premier Shabbat après Pessah. Pardon? Nous, on ne fait pas comme ça. Nous, on lit comme Rachid a dit, que le mot Shabbat ici il veut dire le lendemain du premier jour de Pessah. Enfin, le Shabbat veut dire le premier jour de Pessah, qui est appelé Shabbat. Et donc, comme on parle du lendemain pour apporter le Corban, c'est donc le deuxième jour de Pessah. Pessah, oui, ici, il est appelé Pessah. Shabbat. Oui, c'est nous qui avons inventé ça. Les Tzadokim, les Sadducéens, n'étaient pas d'accord. Donc, eux, ils disaient, comme je vous ai dit, le premier dimanche après le premier Shabbat après Pessah. Par conséquent, pour eux, le Shabbat tombe toujours le. Le Pessah tombe toujours Shabbat. Et c'est ce que les chrétiens ont repris. Pour eux, ils ont aussi leur Pâques, donc qui correspond à Pessah, qui est toujours un dimanche. Et je sais pas pourquoi ils font 2 jours, mais bon, ils font dimanche et lundi. Mais en tout cas, ils font dimanche, qui est le lendemain du Shabbat. Donc, d'après eux, ils lisent comme comme les Tzadokim. Nous, le pshat dans le verset, c'est comme Chazal, la drasha de Chazal. Parce qu'eux savaient quel est le pshat, le vrai pshat. Comment est-ce qu'on a, tel qu'on l'a reçu au Sinaï. On ne doit pas obligatoirement aller chercher un autre pshat. Évidemment, on peut se poser la question, pourquoi la Torah, elle a pris la peine de nous mettre dans cette peine, avec à nous dire que c'est le lendemain du premier jour de Pessah. Le Malbim, il explique que si c'était marqué Mimachorat HaChag ou Mimachorat HaMoed, on aurait pensé que la Kavana, c'est à la fin de la fête. Kol Shivat Yemei HaChag Nikraim B'Shem Chag Umoed. Les 7 jours de Pessah sont appelés Chag. Donc si on avait dit Mimachorat HaChag, on aurait imaginé que c'est le lendemain, donc le 8e jour de Pessah, quoi, si vous voulez. Et là, chez Lichora, Ayat Tzarich Lichtov Mimachorat HaPessah. Pourquoi écrire comme ça? Il suffisait d'écrire le lendemain de Pessah. Pessah, on sait bien que le vrai Pessah, c'est seulement le premier jour. Mais le Korban Pessah, on l'a approché quand? Quel jour du mois est-ce qu'on a approché le Korban Pessah? Le 20e du mois. Le 14. C'est le 14 qu'on a amené on a fait la Shrita. Et par conséquent, si tu dis On amène le homer le lendemain de Pessah. On va l'amener, le corban au homer, le 15. Mais le 15, c'est le premier jour de Pessah. Donc la Torah, elle devait dire quelque chose de différent. Du coup, elle a décidé de dire Imachot à Shabbat. Shemashmaout Shabbat, yi yom, sheshoftim bo mimlacha. Shabbat, ça veut dire le jour de où on a chômé. Et Mimachot à Shabbat, c'est le lendemain du premier jour de Pessah, premier jour qui était un jour dans lequel on n'avait pas le droit de travailler. Le Maharal, il répond autrement, il dit que Shabbat nikret b'chol makom hayom shelifnei hatralah chadasha. כמו בימי השבוע שאחרי שבת מתחיל מחדש מניין ימי השבוע. ובכן כאן נקראת שבת לפני תחילת ספירה חדשה, ספירת העומר. מר"ן לידי, קומיה אין מצווה דקונטה, הוא מפל ספירת העומר. Alors lui, il a l'air de prendre, on sait bien qu'il va y avoir ce décompte. Ce décompte, c'est une nouvelle période, une période en soi, une nouvelle période. Bon, ce n'est pas une période qui a à voir directement avec la sortie d'Égypte. C'est une période où on va compter les jours qui nous amènent à Matan Torah. Et il dit que la caractéristique du Shabbat, le Shabbat, c'est le dernier jour de la période qui précède une nouvelle période. Avant que commence une nouvelle période, il y a une coupure sous forme du Shabbat. Comme si il y a une coupure au sens où on arrête les occupations de la dernière semaine avant de commencer une nouvelle époque. Une nouvelle époque, la nouvelle époque, c'est cette période qui s'appelle Sfirata Omer. A priori, Ad mimachot ha-Shabbat ha-Shvi'i tispuru 50 yom ve'ikravtem mincha chadasha la'Hashem. A priori, ce n'est pas tellement évident de compter 49 jours et le 50e, c'est Shavuot. Dans la Torah, les choses sont, quand on donne des chiffres, ça a toujours du sens. Le chiffre 50, dans la Torah, on le trouve dans le Yovel. L'année du jubilé, les 7 fois sept Shemitot, et puis ensuite il y a l'année du jubilé, cette année où les esclaves sont libérés, où les champs patrimoniaux retournent chez leurs propriétaires, etc. Yovel, c'est ce fameux temps où toutes les choses reviennent à leur place, en quelque sorte, à leur source. Le Passouk dit, à ce sujet, il dit, le Shaftem ish el achuzato, v'ish el mishparto tashuv. Chacun reviendra vers son champ patrimonial et chacun retournera à sa famille. Ça veut dire que il y a un certain niveau de retour aux sources, en quelque sorte, qui est lié avec ce chiffre 50. C'est un niveau au-dessus de Olam Hazeh. C'est un niveau de Olam Haba, parler comme ça. Rabban, il explique que le huitième jour, ce fameux jour qui est après le septième, on dit qu'à Sukkot, il y a un Shmini Atzeret, le huitième qui est une Atzeret, une halte. Pessah, la Atzeret. La Tseret de Pessah, c'est Shavuot. Shavuot, Nikra, et puis Chazal, la Tseret. Chazal n'utilise pratiquement jamais le mot Shavuot, il utilise toujours Atseret, qui veut dire la fête, le moment où on s'arrête. Aliyah mi Pessah la Shavuot, ou Aliyah mi Onamazé le Lamaba. Et donc, ces 50 étapes-là, c'est une aliyah, c'est une élévation, on passe du Olam Hazeh au Olam Haba. Et à Shavuot, on arrive à Olam Haba. Ça veut dire, là-bas, on arrive à la source. Ce jour-là, on peut recevoir la Torah. Qui nous est donné, qui nous vient d'un monde au-dessus de notre monde, au-dessus du Olam Hazeh. Moi, je dis, dans le passage que c'est marqué, Mincha Chadasha, vous allez amener une mincha, une offrande nouvelle pour Hachem. Rashi dit, pourquoi on peut dire qu'elle est nouvelle? Elle n'est pas la. Il dit, voilà, nouvelle, ça veut Chadasha, ça veut dire, elle est la première de la nouvelle récolte. Mais si tu dis, mais ce n'est pas vrai, puisque la Minchat à Omer qu'on a amenée, elle est aussi de la nouvelle récolte. Et le Omer, on l'a amené le deuxième jour de Pessah, donc bien avant le 50e jour de Shavuot. Alors, ce n'est pas une question parce que la Minchat du Omer, elle n'est pas comme les autres. Elle n'est pas comme les autres offrandes. Toutes les offrandes sont toujours des offrandes de blé. Et le homer, c'est de l'orge. C'est de l'orge parce que, entre autres, parce que l'orge est la première céréale qui est mûre à l'époque de Pessah. En fait, il existe deux melachot qui sont en orge. La mincha du homer et la mincha de la sota. Dans la procédure de la sota, le mari, au début de la procédure, il amène une mincha au nom de sa femme. Kol davar gashmi, yesh lo davar makbil beruchaniut. C'est-à-dire, toute chose qui existe dans le monde matériel, elle a un correspondant dans le monde spirituel. Donc les séorim, l'orge, והקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כפות השערה. שערה זה אפרטיין כמו אתן לסנגוליה לשעורים. שעורים מעוררים את מידת הדין. לורג' לבי לריגר. לרזון פה להקל לסוטה הפוך לקורבן. En Seorim, parce qu'on va être bodekota, on va l'examiner, on va essayer de voir si elle est ou non adultère. Shim Chata, si elle a fauté, si elle a été adultère, elle va être sanctionnée par les eaux qu'elle aura absorbées, etc. Et sinon, elle aura une bracha, elle aura les enfants qu'elle n'a pas ou qu'elle. Et quel désir. Ici, Motzei Yom Tov Rishon Shel Pessah. Le lendemain du premier jour de Pessah, on a amené du Seor, du Seorim. Parce que le clan d'Israël doit être examiné. D'accord? Ils sont sortis, ils sont libres à Pessah. On va voir maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait de cette liberté. Si c'est bien, alors ils ont fait quelque chose de bien, ils auront une bénédiction. Et si chas de shalom, non, alors ben bien sûr, il n'y aura pas de. Ça se passera mal, quoi. Le Homer vient toujours être Bodek, le clan d'Israël, comme la Mincha de la Sota, qui est Bodek la Sota. Voilà, on va s'arrêter là, parce qu'il est l'heure. En ce qui me concerne, vous pouvez dire des télés.
Yosef s'était réveillé de ce chadaïque. Il se lève. Il marche la de l'œil, marche, il met sous la fille, il a une robe. Où il y a